Et vous écoutez France Culture. Pendant qu'il parlait, ses yeux examinaient tout dans la chambre. Son visage était lisse, ovale, pâle. Il avait des yeux bruns, anxieux, comme ceux d'un docteur qui va vous faire mal. Il me faisait peur. Eric Ambler, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en ce dimanche sur les traces de l'immense Eric Ambler, virtuose du thriller d'espionnage, maître à trembler d'Alfred Hitchcock, de John le Carré, de Ian Fleming, l'auteur du masque de Dimitrios et de Je ne suis pas un héros, scénariste et producteur hollywoodien, revient hanter les librairies grâce aux éditions de L'Olivier qui publie à nouveau frais quatre de ses classiques. Hommage en compagnie de son exégète François Rivière qui publie également chez Calman Lévy de l'assassinat considéré comme une affaire de femme. Chronique en second temps d'émission, signée Céline Duchesnay, Paloma Hidalgo et Hubert Prolongeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre en ce dimanche consacré au thriller, consacré au livre d'espionnage avec la ressortie d'un classique de la spécialité qui n'est pas inconnu mais qui avait quand même dangereusement disparu des rayons et que l'Olivier a la bonne idée de nous restituer dans des textes intégraux et des traductions révisées. Il s'agit bien sûr d'Eric Ambler, il y a quelqu'un qui a beaucoup fait, qui continue de faire beaucoup chaque fois qu'il peut pour Eric Ambler. C'est François Rivière que je salue. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous depuis tout ce temps, depuis toutes ces années?
Écoutez, je viens de relire Eric Ambler. C'est toujours un moment agréable. Je crois qu'on en revient toujours au bon vieux livres qui vous ont plu à l'adolescence. Moi, je l'ai découvert quand j'avais 15 ans. J'avais lu Voyage dans l'épouvante, qui a été 80 autres titres maintenant, La croisière de l'angoisse, je crois, maintenant, et puis Le masque de Dimitrios, mais que j'ai connu grâce à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelait Jacques Bergier, qui est quelqu'un de controversé et en même temps complètement fascinant, qui avait fait retraduire Le masque de Dimitrios, qui avait déjà été publié en France pendant la guerre, par un certain Gabriel Veraldi, dont on peut lire maintenant la traduction donc dans l'édition de L'Olivier.
De L'Olivier.
Traduction révisée, ce qui est plutôt bien, pour les deux premiers romans d'Ambler qui sont réédités. Et Dimitrios, bon, c'est un chef-d'œuvre absolu, effectivement.
On va en parler. Donc,
voilà.
On va parler de Dimitrios, et puis vous publiez aussi un livre précieux aux éditions Calman Lévy de l'assassinat considéré comme une affaire de femme. C'est un peu une évocation de votre rapport et de vos amours pluridécennales, si j'ose dire, depuis toutes ces années, avec les reines du crime, et notamment avec Ruth Rendell, que vous avez bien connue et avec qui vous avez échangé énormément, de même que Patricia Highsmith et P.D. James. Ce livre fait un petit peu le point sur toute cette histoire. Vous serez confronté aux questions de l'inspecteur Prolongeau.
Et qui vont être redoutables, je peux vous prévenir.
Tout va bien, monsieur Prolongeau.
Ça va bien, merci.
D'où revenez-vous?
Je pars surtout. Pars à Narvik bientôt, traversant la Laponie.
La route du fer est ouverte.
Voilà, rencontrer les meilleures familles du monde.
Oh là! Merci Hubert Prolongeau. Céline Duchesnay.
Bonjour François.
Actualité.
Mauvais genre, puisque je suis là sous vos yeux.
Bah oui, absolument.
Donc vous allez voir, je vais vous raconter une histoire de fantôme.
Ah oui, qu'on attend avec impatience, un livre chez Marcali, très intéressant. Et puis Hermine Paloma Hidalgo, bonjour.
Bonjour François.
Actualité, il y a une actualité.
Il y a une actualité, effectivement. Il y a la sortie, il y a un mois, de mon troisième livre et premier roman, Matériaux Maman, sous le nom de Paloma Hermina Hidalgo, aux éditions de Corlevour. Et pour vous en dire deux mots, c'est une autobiographie féerique, mêlant conte de fées et crudité de l'autobiographie, une espèce de conte de fées psychotique, mettant en scène une enfant, Nievé, qui, à la mort de sa mère, développe des troubles psychiatriques et leur sublimation par la littérature. Mais les choses ne sont pas si simples. Chez Corlevour.
Voilà, conte de fées toxique, ça pourrait être une assez bonne définition des romans, de certains romans d'Eric Ambler. The Jazz Architect, un choix de Laurent Polleret, boîte de nuit torve, climat tendu, incertitude du lendemain. Eric Ambler par Laurent Polleret, très bien, rien à dire. Alors, il faut quand même noter, François Rivière, il y a des classiques du récit d'espionnage et du thriller d'espionnage, mais il semble se créer autour de Eric Ambler, qu'on découvre ou redécouvre à la faveur des éditions de l'Olivier, qui est une sorte d'unanimité, comme si ce personnage représentait une espèce de, pas de supérieur inconnu, là je fais allusion à Jacques Bergier, ni de statut du commandeur, mais une espèce de référence comme ça, intouchable, de maître secret, c'est un peu le maître secret du récit d'espionnage. C'est le cas, quand on voit ce que dit Hitchcock, qui n'est quand même pas un tendre, Ian Fleming ou John le Carré, le personnage fait une sorte d'unanimité étrange autour de lui.
Oui, alors moi je me suis toujours demandé pourquoi Alfred Hitchcock n'avait pas tourné un roman d'Eric Ambler. Il aurait même pu en tourner plusieurs, puisqu'on a l'impression qu'Ambler écrivait pour Hitchcock. Et ça, on s'en est rendu compte au moment où, en 1943, en pleine guerre, l'éditeur américain Alfred Knopf a demandé à Hitchcock d'écrire une préface pour un volume omnibus de quatre romans, les quatre premiers romans d'Ambler, qui paraissait aux États-Unis, et je suis à peu près persuadé qu'Hitchcock a écrit vraiment cette préface lui-même, contrairement à tout un tas de préfaces d'anthologies signées à Hitchcock qui ont été écrites par des gens qui étaient des prêtes plumes, je sais pas comment on dit maintenant, pour éviter un mot gênant, et quand on lit cette préface absolument magnifique, on découvre pourquoi, non seulement pourquoi Hitchcock aimait Ambler, mais pourquoi il faut, comme disait Hitchcock d'ailleurs, il faut aimer Ambler. C'est-à-dire qu'au milieu de la guerre, justement, ou d'une guerre que Ambler, dans ses romans précédents, dans les romans qu'il avait publiés depuis 1937, avait annoncé d'une certaine manière, en montrant ce qu'était notamment le pourtour méditerranéen, enfin toute cette espèce d'ambiance terrifiante où on sentait monter un conflit.
Les premiers romans d'Ambler comme 1936-37. Donc
voilà, c'est ça, les premiers livres.
À la veille.
Avant d'arriver à Dimitrios, qui est un peu une première apothéose de son œuvre, si on peut dire, on comprend très bien que là, on est dans une forme de roman qui utilise le récit d'espionnage pour faire autre chose. Ambler lui-même, d'ailleurs, un peu après, enfin plus tard, dira qu'il a voulu faire de la littérature, ce qui est très risqué, parce que quand on dit ça, les gens vous attendent au tournant. Or, il se trouve que lui a créé, à l'intérieur d'un genre littéraire, une œuvre qui dépasse complètement le genre en mettant en scène des personnages comme c'est le cas justement dans Dimitrios, un espèce de personnage qu'on a connu les philosophes comme Camus qui ont créé des œuvres avec à l'intérieur un personnage qui est un archétype. Là, on a un personnage en Dimitrios qui s'appelle Charles Latimer, qui est un auteur de romans policiers, qui écrit des romans classiques, des romans d'énigmes, et qui se trouve confronté à Istanbul avec la mort, avec un cadavre, qui est peut-être le cadavre d'un certain Dimitrios, un emballeur de figues, oui, qui aurait été tué, mais dont on découvre progressivement tout le passé avant la chute finale, si je puis dire, qu'on ne va pas dévoiler. Il faut quand même laisser aux gens la possibilité de découvrir ce roman extraordinaire. Là, on entre dans quelque chose qui est une réflexion quasi philosophique et en même temps littéraire par un praticien ce jeune encore romancier Eric Ambler, qui est contemporain de Graham Greene, hein, qu'on a comparé d'ailleurs à Greene, et qui après est devenu une référence, effectivement, qui est devenu, comme on le dit, un peu écrivain pour écrivain. C'est-à-dire que des gens comme Ian Fleming, comme d'autres, comme John le Carré, et encore Graham Greene, sont devenus presque des disciples d'Eric Ambler. Alors même, et c'est là où on est dans quelque chose qui, moi, me gêne, m'ennuie depuis des années, cet auteur a jamais beaucoup percé en France, où il s'est pas vraiment acquis un public, alors que quelqu'un comme John le Carré est devenu quasiment une référence, quoi.
Alors si on regarde François Rivière, le trajet d'Eric Ambler, une famille d'artistes de musicals, ses parents sont marionnettistes, c'est quand même assez extraordinaire. Lui-même commence par des études d'ingénieur tout à fait classiques qu'il délaisse pour travailler dans la publicité. Il publie un premier roman, Prolongeau, en 1936, Frontières des ténèbres. Et après, j'allais dire, le parcours est ouvert, la route est à tracer, il tracera la route jusqu'en 1993, date de son décès, avec un dernier roman appelé Le Brochet. Et entre ces deux dates, il y a un homme donc qui publie à peu près 17 romans, presque une petite vingtaine de romans et de nouvelles, qui est scénariste à Hollywood, qui lui-même est producteur à certains moments. Donc un parcours, quand on le voit de l'extérieur, qui c'est pas un ancien agent secret, c'est pas un personnage qui se distingue par une vie particulièrement singulière, mais par contre tout est dans la littérature chez Ambler.
Et avec cette interruption de 11 ans, à un moment où il se consacre beaucoup au cinéma, au scénario, il revient donc avec l'affaire Deltchef. Est-ce que vous notez un changement stylistique? Est-ce que cette interruption a marqué quelque chose ou l'œuvre pour vous s'inscrit dans la même continuité?
Oui, il y a vraiment un changement. C'est-à-dire que les premiers romans d'Ambler sont ce qu'on appelait à l'époque des récits d'intrigue internationale. C'est-à-dire qu'ils se fixaient quand même sur un modèle qui était le modèle des premiers romanciers d'aventure traitant d'espionnage, même s'ils traitent ça à sa manière, déjà avec en mettant en scène un personnage anodin pratiquement qui se trouve pris dans un espèce de piège diabolique. Il se trouve qu'il a beaucoup travaillé pour le cinéma pendant la guerre à Londres, enfin le cinéma de propagande, notamment avec Carol Reed, qui est quand même pas n'importe quel réalisateur. Il a connu d'ailleurs des gens comme David Niven, comme Ustinov, qui plus tard va incarner un personnage extraordinaire dans le film Top Capi de Dassin. Il réfléchit pendant ce temps-là à ce qu'il va pouvoir faire comme romancier après cet intermède, parce que effectivement c'est quelqu'un qui voulait gagner de l'argent, qui voulait se faire connaître scénariste en Angleterre avant de partir un peu plus tard à Hollywood. C'était quand même quelque chose d'important pour lui, mais il réfléchissait à comment continuer à faire du roman en faisant ce qu'il appelait, lui, de la littérature. Moi, ce qui je trouve très risqué, mais il se trouve qu'il a réussi, notamment avec son premier livre, à son retour en 51, avec le jugement Deltchef,
l'affaire
Deltchef. Il a fait quelque chose qui a été salué par la critique, par notamment Graham Greene aussi, qui a écrit sur lui à ce moment-là. Et puis après, sa carrière s'est développée.
Alors justement, vous parlez de Green, de Le Carré, on fait d'Ambler le père du genre, ce qui est toujours une étiquette un peu facile. Quelles traces on trouve vraiment de lui dans des œuvres aussi différentes malgré tout que celle de Graham Greene, qui était contemporaine, que celle de John Le Carré, ou que celle de Ian Fleming, créateur de James Bond, qui est une autre facette de l'espionnage?
François Rivière.
Je crois qu'en fait, il a créé un espèce de modèle de l'anti-héros, enfin d'une certaine manière. Alors, ce qui peut sembler paradoxal, c'est que quelqu'un comme Ian Fleming qui se réclamait, qui notamment dans un de ses romans montre James Bond montant dans un avion et sortant son attaché quai, un roman d'Eric Ambler.
Le masque de Dimitrios, justement.
Oui, ça, il lit le masque de Dimitrios. En fait, James Bond est tout sauf un anti-héros. C'est une caricature de l'espion.
Et tout sauf un héros amblérien.
De fiction, et c'est pas du tout Ambler. Mais Ambler avait fixé quelque chose qui, dans la manière de mener une intrigue, dans la manière de mener un récit, et surtout, il donnait ses lettres de noblesse aux gens, finalement. Moi, je vois que ça, parce que Graham Greene a écrit un roman magnifique qui s'appelle Le Facteur Humain, qui est un roman d'espionnage, contrairement à ses autres romans, qui sont des romans à thèse, qui ont beaucoup vieilli, alors que les romans d'Eric Ambler restent magnifiques. Oui, je pense que c'est un modèle, mais il trouvait vraiment des traces de ce qu'il a fait. Il y a quelque chose d'un peu magique dans la fiction d'Ambler.
Les traits d'un homme, la structure des os et des muscles qui les recouvrent, sont le résultat d'un processus biologique. Mais son visage, c'est lui qui le crée. C'est une image de son état émotionnel habituel, la projection de ses désirs et des craintes qu'il cache aux yeux d'autrui. Il le porte comme un masque diabolique, un instrument pour produire chez les autres des émotions qui reflètent les siennes. Et s'il a peur, il doit inspirer la crainte. S'il désire, il cherche à se faire désirable. C'est un vêtement posé sur sa nudité psychologique. Seulement, quelques hommes, des peintres, ont su dévoiler l'esprit qui se dissimule derrière le camouflage de chair. Les autres ont besoin d'interpréter les paroles et les actes pour comprendre la signification du masque qui leur fait face. Et bien qu'ils sachent d'instinct que la réalité d'un être coïncide rarement avec son apparence, ils sont choqués par une démonstration de ce fait si commun. La duplicité d'autrui est toujours choquante pour celui qui n'a aucune conscience de la sienne propre. Voilà un extrait du masque de Dimitrios d'Eric Ambler dans la nouvelle édition de l'Olivier, chapitre 14, le début d'ailleurs intitulé ce chapitre « Le masque de Dimitrios ». Alors voilà, ça c'est quand même, je dirais, l'effet Ambler, remarque Vosquelvaux, François Rivière, c'est cette espèce d'apparition des personnages. Parce que autant, effectivement, dans certains romans d'espionnage, tout ça sent la cordite, l'adrénaline, et tout est dans l'action, l'énergie, une espèce de coup de force permanent, autant chez Ambler, on est véritablement dans une espèce d'énigme essentielle qui est celle du personnage qui vient d'arriver. Et moi, ce qui me frappe dans les deux romans qu'on peut lire, là, c'est que brusquement, la porte s'ouvre et quelqu'un apparaît. Et alors, cette personne, effectivement, a un masque, il a une identité, il se présente comme étant X ou Y, qui se livre à telle ou telle activité, il vient vous voir pour telle raison, et en définitive, Ambler fait flotter autour de tout cela une espèce de climat d'incertitude, d'angoisse, de stress bizarre qui fait que les personnages d'Ambler sont véritablement des camouflages de chair. François Rivière.
On est dans une forme de fiction complètement paranoïaque puisqu'on a un héros qui est un personnage banal, qui est l'homme de la rue pratiquement, même si c'est en général un ingénieur, quelqu'un qui a un rapport avec même l'armement, quand ça se passe pendant la guerre, qui est un représentant d'une firme, mais qui va se trouver soudainement face à un personnage énigmatique, un personnage qui lui représente le... On a presque envie de dire d'un côté le bien et de l'autre le mal, mais c'est même pas ça, parce que c'est plus compliqué que ça... un personnage qui va précipiter le héros qui ne voudrait surtout pas se retrouver mêlé à quelque chose de dangereux, va le précipiter dans une espèce de maelstrom qui va être le roman, c'est-à-dire un enchaînement de faits, de guet-apens, de crimes quelquefois, de toutes sortes de choses qui sont comme un espèce de train fantôme. Enfin, pour moi, j'imagine qu'il y a le petit Ambler, fils de saltimbanque qui est encore là, dans la tête du romancier, et qui est dans une espèce de baraque foraine où on lui montre des choses qui font peur. Enfin, c'est-à-dire qu'il se met, c'est un adolescent en fait, d'une certaine manière, qui se met à vivre des événements épouvantables jusqu'au dénouement. Et très souvent, bon, les choses se terminent pas forcément mal, mais le héros passe par toutes sortes de situations qui relèvent à la fois bon de la fiction, enfin du roman d'aventure, et puis de quelque chose de supérieur. Il n'y a pas Dieu comme chez Graham Greene, mais il y a quelque chose d'autre.
Alors il y a quoi, Hubert Prolongeau, s'il n'y a pas Dieu ?
Il y a le mal.
Le mal, lequel... ça, effectivement, il est nommément, d'ailleurs, désigné dans le masque de Dimitrios. C'est quand même le génie d'Ambler, c'est l'espèce de terreur sourde, impalpable, qui rayonne de ces personnages.
C'est ça, et que découvre le héros, un peu malgré lui, au terme de quêtes dont il ne sait pas très bien où elles vont les mener, et dont l'aboutissement dépasse souvent ce qu'il avait imaginé. Je crois que c'est vraiment la clé, ce sont des anti-héros, c'est-à-dire c'est des gens que rien ne prédispose à rencontrer ceux qu'ils vont rencontrer, et ce sont les circonstances de la vie, souvent celles de l'histoire, qui les amènent à ça. Est-ce que Latimer dans le Masque de Dimitrios, c'est pour vous le double d'Ambler, ce personnage d'écrivain qui finit
panne.
Par mettre à nu la personne à laquelle il se confronte ?
François Rivière. Je dirais presque que c'est le contraire de ce qu'aurait pu être le double dans la fiction d'Ambler. C'est-à-dire qu'Ambler, qui était fasciné par le crime, déjà très jeune, hein, quand il était gamin, il allait sur des lieux de crime pour voir un peu comment se passaient les choses. Il aurait pu devenir auteur de romans policiers classiques. Or, justement, c'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Et il met en scène un personnage qui est celui qu'il n'aurait pas dû être, qu'il voulait pas être plutôt, et qui se trouve justement, comme c'est le cas de Latimer, dans deux romans, dans Midi Metros et dans Intercom Conspiracy, Complot à Genève, qui se trouve face un peu à ce que quand on est un romancier classique, quand on est quelqu'un qui prend toutes les précautions pour pas être ennuyé dans sa fonction d'écrivain, si on peut dire, se trouve face vraiment à quelque chose de dangereux.
Mais il a écrit des nouvelles policières aussi, dont le héros était un membre de la police tchèque. Ça a été une impasse ou...
Oui, il a écrit pendant la guerre plusieurs nouvelles que personnellement je trouve un peu pas terribles, parce que justement, ça lui a prouvé en fait des nouvelles un peu classiques, d'énigmes, qui lui ont prouvé qu'il n'était pas fait du tout pour ça en fait. C'est pour ça, il y a une recherche chez lui permanente, hein, parce qu'après, dans la suite de son œuvre, les choses évoluent énormément, à la fois parce que il a quand même une réflexion théorique sur le roman d'aventure, et puis parce que c'est quelqu'un qui bougeait tout le temps, enfin qui voulait pas rester toujours au même endroit, et qui voulait, enfin je veux dire en tant qu'écrivain, qui voulait essayer des choses nouvelles. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à le suivre, même si un public anglo-saxon a quand même apprécié, parce qu'on voulait lire à nouveau Eric Ambler pour se retrouver dans un suspense haletant, quoi.
François Rivière, il y a quand même ce qui fait le cœur des romans d'Ambler, c'est les dialogues. C'est pas les scènes d'action. Si on prend Le Masque de Dimitrios, les scènes d'action, on ne dit rien. Il y en a une à la fin, elle est quand même extrêmement limitée, mais il y a un peu d'action à la fin, au sens de l'espionnage cinéma et roman. Pour ce qui est de Je ne suis pas un héros, il y a une scène d'action au début qui est quand même réduite à pas grand-chose. Et le reste, ce sont des dialogues. C'est-à-dire que l'affrontement, la guerre, la violence, elle est totalement psychologique. Mais elle est psychologique d'une façon qui fait qu'en permanence, on se demande si ça va pas déraper dans la vraie violence. Mais on est dans un romancier de dialogue qui, faut le dire, est totalement génial.
On est dans les dialogues et puis dans ce que pense le personnage, dans ce que il y a un échange muet entre le héros et les personnages qui inquiètent, qui sont là, qui tournent autour. Quand on est sur un bateau, par exemple, dans un roman d'Ambler, tout se passe. C'est du théâtre en fait. Hein, il y a quand même. Alors peut-être il se peut hein, que Ambler ait été, mais ça il l'a jamais raconté. Était très marqué par une forme de théâtre qui était un peu ce que faisait Simon Strickmaum à l'époque. Enfin, toute une forme de dramaturgie qui pour lui effectivement était très utile pour ce qu'il voulait écrire, parce que effectivement on n'est pas dans un roman d'action. Hein.
Hubert Prolongeau.
Le mal dans ses premiers romans, Dimitrios et ceux des années 30, était le nazisme. Plus tard, il a évolué, il a dénoncé assez fortement la raison d'État, puis le capitalisme. Il a eu un parcours d'homme de gauche, un temps affilié au Parti communiste, avant, comme beaucoup, après 56, de décrocher. Est-ce qu'il y a une part militante, une part d'engagement dans l'œuvre de Ambler, ou ça n'est qu'un décor ?
Ben, il a eu un modèle qui était son grand-père, qui était un libertaire accompli, et ce qui fait qu'il est devenu sympathisant du communisme à un moment, et puis après la guerre, enfin dans les années 50, là, on le voit dans l'affaire Deltchev, les procès staliniens l'ont un peu refroidi, c'est le moins qu'on puisse dire, et après ça, j'ai l'impression qu'il appréciait un peu, enfin il s'intéressait un peu à tout, il prenait pas vraiment position. Je pense, oui, qu'il n'était pas vraiment... Enfin, le capitalisme l'amusait pas, parce que c'était pas... Il cherchait un idéal, mais au fond, on se demande s'il l'a trouvé un jour, après avoir été chaudé, en fait.
Un peu plus loin, lorsqu'il s'engagea dans le dédale de rue derrière les jardins publics, il eut l'impression que la berline noire le suivait. Il l'entendait qui, lentement, roulait derrière lui. L'éclat jaune de ses phares perçait le brouillard. Il continua à marcher, se disant que le chauffeur s'était probablement égaré. c'est alors que cela se produisit. Devant lui, sur une courte distance, le brouillard s'était levé. Il descendit sur la chaussée pour prendre un raccourci. Une fraction de seconde après, la voiture accéléra violemment. Il se retourna et la vit qui fonçait sur lui. Les phares, soudain devenus énormes, l'aveuglèrent. Il cria et tenta de s'écarter d'un bond. Trop tard. Il ressentit une douleur atroce, fulgurante, des jambes jusqu'à la taille, puis un choc au moment où il toucha le sol. Un instant, il resta immobile. Il se rendait vaguement compte qu'il était allongé en travers du trottoir. Il essaya de se lever. La douleur se répercuta alors dans sa poitrine et un sifflement aigu envahit son crâne. Il sentit qu'il perdait connaissance et porta la main à sa poche pour attraper son portefeuille. Ce fut son dernier geste conscient.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Un extrait de Je ne suis pas un héros. D'ailleurs, François Rivière, c'est la seule scène d'action du roman.
Oui, ça me fait mentir.
Enfin, non, j'exagère.
Sur ce que je disais juste avant. Mais
on ne parle pas de la fin. La fin, il y a quand même un peu d'action, mais. Ouais.
Non, mais il y a de l'action. Et surtout, ce qui me semble de plus en plus évident quand je pense que je relis en bleu, c'est l'influence que le cinéma a eue. Déjà, le fait que lui, ayant été scénariste et dialoguiste, a travaillé pour le cinéma. Bon, c'est pour ça que je persiste à penser que Hitchcock vraiment a raté quelque chose, mais je pense qu'il y a une raison peut-être aussi à ça, c'est la jalousie d'Hitchcock vis-à-vis de celle qui a été la seconde femme de d'Eric Ambler, qui était la productrice de la série Hitchcock présente et qui a été une collaboratrice du couple Hitchcock depuis les années 30. Hitchcock n'était pas facile à vivre, mais effectivement le cinéma c'est quelque chose qui compte quand même, hein, comme influence sur son œuvre.
Et on peut signaler la qualité des gens qui l'ont adapté, puisqu'il a quand même été adapté par Orson Welles, par Jules Dassin, par Raoul Walsh, par Jean Negulesco. C'est pas non plus de la petite bière, comme on dit.
Alors, si on veut trouver un film amblérien archétypal, c'est peut-être pas dans les adaptations d'Eric Ambler qu'il faut aller chercher, mais plutôt dans Le Troisième Homme, par exemple. C'est-à-dire des romans où on cherche quelqu'un qu'on ne trouve pas, sauf à la fin, dans une ville sinistrée, qui est la Vienne d'après-guerre, dans un climat crépusculaire avec des noirs et blancs quasi expressionnistes. C'est plutôt le Troisième Homme que les films d'espionnage tirés directement de ces romans, François Rivière.
Sur le plan purement, j'allais presque dire métaphysique, c'est sérieux, je dirais, c'est effectivement un peu qui se trouve dans le sujet justement écrit par Graham Greene, parce que c'est même pas une adaptation de roman, hein. C'est un sujet écrit par Graham Greene pour Carol Reed. On peut trouver presque la trace de ce qui était déjà Ambler à ce moment-là, mais moi je trouve que un film qui d'une certaine manière est beaucoup plus amblerien, parce qu'il y a quand même de l'humour, hein, une espèce d'ironie sous-jacente par moment dans les romans d'Ambler. Le film Top Capi de Dassin avec Ustinov qui incarne un personnage de Levantin éduqué à Oxford, c'est quand même énorme et c'est très drôle et c'est dévastateur aussi pour le public anglo-saxon et là, on est dans du pur Ambler. Ustinov, qui était un ami d'Ambler en plus, donc il y a vraiment une connivence entre les deux, quoi.
Mais le masque de prenons les deux titres disponibles, donc édités par l'Olivier, François Rivière. Le masque de Dimitrios, c'est l'histoire dans Latimer, cet auteur de romans de policiers anglais qui est un peu en panne d'inspiration et à qui on remet comme ça dans les mains un dossier, le dossier Dimitrios, et qui parcourt toute l'Europe en quête de ce personnage qui a toutes les apparences et qui est vraiment le diable. Toutes les apparences et qui n'en a aucune, toutes les voix et qui n'en a aucune, se définit en creux par les méfaits qu'il commet plus que par une action vraiment positive. Je ne suis pas un héros, c'est Marlowe, un jeune brillant ingénieur anglais qui perd son travail, envoyé en Italie. Et en Italie, on lui confie la gestion d'une filiale d'une entreprise anglaise, bizarre d'ailleurs, qui est décrite un peu comme un truc un peu en déshérence. Mais en Italie, c'est au plein de l'Italie fasciste. donc ce personnage ne veut être qu'ingénieur. Je ne suis qu'ingénieur. Je suis là pour faire des activités industrielles. Ne venez pas m'embêter avec vos... Et puis brusquement, la politique finit par le cerner, le rattraper, l'imbiber. Et puis, grosso modo, là, il ne peut plus sortir du piège dans lequel le font tomber toute une série d'espions et de maîtres espions. Et dans les deux cas, on a affaire quand même effectivement à une espèce de rapport très curieux à l'histoire, puisque on est dans des romans psychologiques presque métaphysiques, je veux dire, avec des personnages qui, on pourrait dire que le disciple français, le meilleur disciple français d'Eric Ambler, ce serait Patrick Modiano, avec cette capacité de faire apparaître des personnages en les laissant flotter, en les rendant inquiétants sans leur faire trop de choses. Et puis là, il y a quand même aussi une idéologie antifasciste très nette. François Rivière.
Oui, en fait, je pense que Dimitrios, c'est vraiment le modèle absolu. Ambler ne pouvait pas le faire deux fois. Enfin, c'était vraiment le prototype d'une espèce de nouvelle forme de fiction. J'ai un côté nouveau roman, même, dans le temps de Dimitrios, qui m'a toujours frappé, de même qu'il y a un film de Rome Grillé qui me fait penser à Dimitrios. C'est, bizarrement, même ça a pas beaucoup de rapport, mais le fait de fabriquer quelque chose d'un peu irréel, comme ça, enfin, un schéma qui se développe pendant tout un roman, et là, bon, on est dans, effectivement, une œuvre unique. Alors que je ne suis pas un héros, c'est un des épisodes d'une forme de fiction nouvelle inventée par Ambler, où dont chaque fois le héros change, mais qui à chaque fois vit un peu, alors un peu comme Modiano, qui est quand même très répétitif, vit, mais beaucoup moins répétitif que chez Modiano quand même, qui vit une aventure personnelle, parce que c'est toujours une aventure personnelle face à des personnages inquiétants et voilà.
Hubert Prolongeau.
Alors, vous l'avez édité vous-même aux Humanoïdes Associés, Ambler. Pourquoi est-ce qu'on s'en désole tous, et vous le disiez en début d'émission, pourquoi est-ce qu'en France, il n'a jamais percé au point où il l'a fait dans les pays anglo-saxons, alors que ces émules dont on parlait, Green, Le Carré, tout ça, l'ont, eux, fait largement?
Ça reste un peu une énigme. Je crois qu'il y a quelque chose chez Ambler d'une forme d'excentricité, même si ça en a pas l'air, parce que c'est du roman de genre, mais une forme d'excentricité typiquement britannique, avec laquelle le public français n'accroche pas. Enfin, je sais pas vraiment pourquoi. Ou plutôt, je me dis que c'est autant curieusement, on a lu Graham Greene à une époque. Maintenant, on le lit plus du tout. Hein, parce que c'était du roman à thèse, etc. Il y avait des idées chez Ambler. Je pense qu'un esprit cartésien, c'est pas trop sur quel pied danser. Enfin, c'est un peu ce que je pense. Alors que l'amateur de mystère, lui, va se jeter avec joie dans ce genre d'histoire. Mais ça reste un peu étrange, et je pense que ça tient aussi à un problème éditorial. Chaque roman d'Ambler, pendant très très longtemps, a été publié par un éditeur différent. Et on peut pas dire que ça aide vraiment à la diffusion d'une œuvre.
Alors, on parlait d'Eric Ambler et le cinéma, un extrait du Masque de Dimitrios de Jean Negulesco. Alors, on parlait de personnages anxiogènes, voire très angoissants. Là, il y a quand même une scène avec Sidney Greenstreet, Peter Lorre. Le casting a été soigné. Et puis là, ils sont dans une boîte de nuit où une ancienne relation d'affaires, peut-être plus, de Dimitrios, réagit à la nouvelle qu'il est peut-être mort, ou qui sait, pas mort.
I know nothing of interest to anyone.
Your discretion is famous, madame. This, however, concerns a man, now dead and buried, whom you knew over 15 years ago.
You pay me the most delicate compliments, monsieur. 15 years. You can't expect me to remember a man that long.
We hardly dare to hope that you remember. But if a name means anything to you, it was Demetrius. Demetrius Makropoulos.
Get out. Both of you. I don't like you in here.
But, madame.
Get out. Sit down. Don't think I want a scene in here.
If you will explain how we can leave without standing up, I shall be grateful.
Are you a policeman?
Oh, no, he's not the police. He's a writer of books and seeks information.
Why?
He saw the dead body of Demetrius in Istanbul and he's curious about it.
He's dead. Are you sure he's dead?
actually saw his body.
It was found in a Bosporus. Had been stabbed.
Did he have any money on him?
Voilà un extrait du Masque de Dimitrios de Jean Negulesco. Voilà des boîtes de nuit levantines où tout est possible, où tout se négocie, les tractations s'effectuent et où l'angoisse est palpable, François Rivière.
Oui, moi j'ai toujours rêvé, je continue à rêver d'un film d'Alfred Hitchcock avec Humphrey Bogart dans le rôle du personnage, du héros amblerien. Mais il y a des scènes magnifiques. Parce que finalement, là, c'est du cinéma. Mais déjà, dans les romans, il y a des scènes qui auraient pu être filmées telles quelles, vraiment.
On conclut.
Non, moi, je conclurai avec un détail sur lequel j'aimerais bien que François nous dise un peu plus. C'est ce pseudonyme d'Eliot Reed que Ambler choisissait pour ses romans plus médiocres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on c'est curieux comme démarche de se dire, allez, je vais écrire des trucs un peu plus nuls, et donc je vais changer de nom.
Les romans qu'il a écrits en collaboration.
Non, qu'il a écrit sous le pseudonyme d'Eliot Reed.
Oui, en collaboration, oui. Avec un romancier qui n'a pas laissé beaucoup de traces, qui s'appelait Charles Roda. J'en ai lu un. C'est du sous-ambleur, en fait.
Ah oui.
On sent que il a dû pondre un synopsis de 3 pages et le monsieur Roda a fait la suite. Ça vaut pas grand-chose, malheureusement. Là, on est vraiment dans le roman de gare. Enfin, effectivement, on peut se dire que c'est ce qu'Ambler aurait écrit. S'il n'avait eu aucun talent et s'il avait voulu absolument se... Mais je crois que c'est aussi parce qu'il avait besoin d'argent qu'il a écrit ça, même en collaboration. Enfin, voilà. Mais c'est pas très glorieux, en fait.
Eric Ambler, Je ne suis pas un héros et Le Masque de Dimitrios aux éditions de l'Olivier. Donc, 4 volumes sont prévus. Bien pour oui. Pourquoi 4? 8? Pourquoi pas 12?
J'ai mis sur le grill l'attaché de presse de la maison qui m'a dit que peut-être en cas de triomphe, il y en aurait d'autres. Et il y a donc La Croisière de l'Angoisse.
On s'adresse aux auditeurs de Mauvais Genre. Faites triompher Eric Ambler. Comme ça, il y en aura d'autres.
Exactement. Voilà. Et il y a La Croisière de l'Angoisse et Les Trafiquants d'armes prévus pour l'an prochain.
Voilà, et puis l'année d'après, espérons que...
Si Dieu le veut.
Alors, il y a un inédit d'Eric Ambler qui est signé François Rivière et qui s'intitule, paru chez Calman Levy, De l'assassinat considéré comme une affaire de femme. C'est extraordinaire à quel point vos essais sont romanesques et vos romans sont des essais masqués, François Rivière. Parce que là, ce livre qui raconte plusieurs décennies de contacts, d'échanges, de réflexions, d'amour avec les reines du crime que vous avez pu croiser, et donc c'est un essai.
Oui,
mais à quel point ça devient vite un roman?
C'est pas du tout un essai. En fait, si on veut que ce soit un roman, c'est le roman d'un obsédé. En fait, c'est d'un obsédé de l'écriture féminine policière, si on peut dire. Même si Marguerite Yourcenar disait qu'il n'y avait pas d'écriture féminine, j'ai voulu montrer que si, mais surtout en m'acharnant pendant des années à rencontrer des femmes auteurs de romans policiers, enfin ou supposés policiers, qui étaient souvent des personnages maniant la plume de manière très différente les unes des autres. J'avais commencé par Agatha Christie, que j'ai jamais connue, bien sûr, et que certaines de mes amies romancières plus récentes considèrent comme quelqu'un qui écrivait très mal, ce qui m'a beaucoup amusé.
Oui,
P.D. James m'a dit vraiment qu'elle écrivait mal. Randall pouvait pas la supporter parce qu'elle représentait toute une classe sociale que Randall, qui venait d'un milieu très modeste, considérait comme une chose absolument épouvantable. Bref, puis après j'ai connu, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois, Patricia Highsmith, qui était à elle toute seule une forme de littérature qu'elle a pratiquée très bien, même par moments du fond de l'ivresse la plus totale. Et puis j'ai rencontré un jour Ruth Rendell, qui était, elle, pas encore très connue en France, qui commençait à l'être un peu aux États-Unis, enfin, et en Angleterre, puisqu'elle était anglaise. Et puis je me suis vraiment acharné, c'est devenu une obsession, suivre sa carrière, voir comment ça fonctionnait, et devenir ami avec elle, parce que finalement, elle demandait pas mieux que d'avoir quelqu'un qui s'intéressait à sa pratique, à son art d'écrire, et ça a donné, au bout d'un certain temps, sans que je prenne trop de notes, parce que c'était pas vraiment le but non plus, un récit comme ça, ou aussi parlant avec ces femmes, et je me rendais compte qu'elles étaient souvent elles-mêmes complètement obsédées par d'autres auteurs pratiquant la même forme de fiction, qu'elles se mesuraient aussi à d'autres dans ce domaine. Ou certaines considérées aujourd'hui comme d'immenses écrivains, comme Joyce Carolos, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui était, elle, une fan de Rendell, et qui préférait même qu'on parle ensemble de Rendell plutôt que de parler de ses propres livres. Ça m'a permis de sentir qu'on pouvait nager là-dedans de manière... Et c'est ce qui m'est arrivé, comme un poisson dans un aquarium, en rencontrant des
personnages. Aquarium de plein de whisky, bien sûr. Ouais. Mais alors, les rencontres que vous faites, justement, on parlait des rencontres chez Ambler, où le héros, brusquement, a un rendez-vous avec quelqu'un, et puis il y a une espèce de choc, où ce personnage est énigmatique. Alors là, c'est en permanence, dans ce récit, largement autobiographique, François Rivière, les personnages que vous rencontrez sont des énigmes. Que ce soit Ruth Rendell, P.D. James ou Patricia Highsmith, et vous tentez après de circonscrire l'énigme, et puis, pas de voler le feu central, mais d'aller au cœur du dispositif psychologique et littéraire.
Mais je crois que le fait de les lire, déjà, ça permettait pas de percer le secret de leur pratique littéraire, mais de comprendre un peu pourquoi elles écrivaient, quoi. Patricia Highsmith, elle s'est racontée pas mal, bon, donc on pouvait déjà le comprendre, mais je pense que quelqu'un comme Ruth Rendell, qui était beaucoup plus secrète, c'est à travers ses origines, l'influence de son père, par exemple, qui était un immense lecteur, tout en étant un petit professeur dans la banlieue nord de Londres, qui l'a amené à écrire, qui l'a amené à sortir... d'un monde qui n'était pas vraiment fait pour elle, pour devenir un écrivain de talent, même si son talent n'a pas été toujours reconnu par une critique littéraire assez sourcilleuse, puisque contrairement à P.D. James, qui elle venait d'un milieu plus bourgeois et qui était vraiment de l'autre côté de l'échiquier, puisque l'une, Rendell, était labor, comme on dit, travailliste, et P.D. James, qui avait travaillé dans la police, qui avait travaillé dans Home Office, était plus, complètement conservatrice, et a eu droit à beaucoup plus d'égards vis-à-vis de son travail que Rendell, par exemple. Enfin bref, le fait d'évaluer tout ça, moi, ça m'intéressait de voir justement comment elles avaient fonctionné. Et d'autres, alors, qui ne me sont connues qu'à travers des romans, j'ai pu quand même aussi me découvrir l'influence qu'avait eue pratiquement par exemple, la psychanalyse sur certaines romancières américaines des années 40. Et puis voilà, me promener dans un paysage, en fait, dans un espèce de paysage un peu fantastique par moments, un peu irréel, assez amusant, en fait, avec toutes ces femmes qui au fond ont un peu fait bouger quand même le roman, l'art du roman depuis quelques décennies quand même.
Est-ce qu'elles incarnent un âge d'or pour vous, ou est-ce qu'il y a une descendance? Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez avoir les mêmes conversations avec des romancières de 30 ans de moins, ou il n'y a pas?
Moi, je pense qu'elles ont ouvert la voie à quelque chose, et que maintenant pas mal de femmes écrivent, enfin de... font du roman policier, ou plutôt quelque chose qui, en partant de l'idée de fiction noire, parle de faits sociétaux, parle d'elle, en fait, parle de leur vie, commence à s'ouvre sur le monde d'une manière qui n'est plus seulement le fait de romancières psychologiques plus classiques. En fait, elles ont amené quelque chose, chacune à sa manière. Patricia Highsmith, notamment, quand même, a eu une aura, notamment en France, où elle a été considérée très vite comme un vrai écrivain, pas seulement comme un auteur de polar, comme on dit. Ça a un peu fait bouger les lignes. Rendell aussi, à sa manière, même si elle a eu moins d'impact sur le sur le public français, alors que P.T. James, qui elle écrivait dans la tradition, une tradition classique, un peu celle d'Agatha Christie, a trouvé un public plus classique, plus bourgeois finalement. Non, c'est il y a toute une sociologie en fait de la littérature policière qui apparaît quand on se penche un peu sur le problème, quoi.
Et alors ces personnages aujourd'hui, est-ce qu'il y a des auteurs, justement des reines du crime, selon vous, la transmission, elle se fait à quel niveau? Quel serait l'auteur la plus emblématique? Parce que là, on est quand même sur des gens qui sont du passé. L'actualité des reines du crime aujourd'hui, François Rivière?
Pour moi, l'actualité, elle est pas très reluisante parce que on n'a plus tout à fait ce genre de personnages qui incarnaient à chaque fois une manière de faire, enfin une forme, une manière d'explorer un peu la société. Je pense que maintenant on copie un peu, enfin les femmes, ne dis pas copie ce que font les hommes, c'est pas ça dans ce genre. Les femmes qui écrivent, j'en lis moins aussi, je reconnais, que ce soit dans le domaine anglo-saxon ou français, dans le domaine français, je pense que maintenant le fait que le roman policier, enfin que la stratégie de quelqu'un qui écrit du policier se confond complètement avec le roman tout court, ça noie un peu la chose, et moi j'y vois plus tellement une spécificité, alors que à une époque c'était le cas. Et j'avoue platement que ça m'intéresse beaucoup moins parce que chacune était un peu un phénomène, quoi.
À la rencontre donc de ces phénomènes qu'ont été les grandes romancières criminelles, romans, évocations autobiographiques de dialogues et de rencontres de François Rivière, c'est aux éditions Calmann-Lévy, de l'assassinat considéré comme une affaire de femme. Chronique maintenant dans Mauvais Genre et l'on ouvre avec l'almanach de l'étrange. Céline Duchesnay.
L'étang a des allures de plaie béante. L'entaille putride a déchiré le sol sur plusieurs dizaines de mètres et le malmène, lui infligeant une douleur sourde. Vu du ciel bas, où croisent des corneilles, les arbres l'oblitèrent. Ils ont poussé, entremêlé et le préservent des yeux du monde. Leurs racines baignent dans ces eaux noires et marécageuses. Leurs branches, malingres, l'enserrent. Autour, des herbes folles s'élancent, desséchées, bordées de brins d'herbes épars, qui n'ont par miracle pas perdu leur couleur. L'étendue d'eau est vaste, mais sa forme irrégulière rappelle des chairs grignotées par la gangrène. Au cœur de la blessure immergée et invisible, la vermine grouille dans l'indifférence et le secret. Alors c'est avec la description de cette terre mystérieuse, gorgée d'eau, que Manon Gauthier-Fort commence son livre « Les fantômes du lac ». Le livre, sous-titré « Mémoire d'un village meurtri », est une enquête sur le destin de deux jeunes sœurs retrouvées noyées, main dans la main, dans un trou d'eau en 1978. Si ce tragique fait divers est arrivé des décennies plus tard aux oreilles de Manon Gauthier-Fort, c'est que depuis quelque temps, les vieilles pensionnaires de l'EHPAD du village mentionnent des apparitions. Il y aurait, disent-elles, deux petits fantômes qui viennent leur parler la nuit ou jouer dans les couloirs. Deux petites filles qui répondent au prénom de Marielle et Nathalie, comme les deux sœurs. D'étranges phénomènes aussi constatés par le personnel de l'EHPAD. Alors Manon Gauthier-Fort décide de mener l'enquête. Elle s'intéresse aux faits divers depuis toujours. Palper l'insondable et tenter de détricoter les mystères m'a toujours animée, m'explique-t-elle. Et armée d'un calepin et de son enregistreur, elle se rend au village pour rencontrer les témoins et découvrir les lieux.
Encore une autre maison à droite. Au numéro 10 de la rue. Et là, voilà. Donc là, je suis dans l'impasse. En fait, je crois que le trou d'eau, on peut pas y accéder. Là, il y a une maison désaffectée. Apparemment. Et le trou d'eau, je le vois pas.
Mais très vite, Manon Gauthier-Fort se retrouve confrontée au silence des habitants. Alors pas un silence spécialement hostile, non. C'est comme si le village était amnésié dans l'incapacité totale de se souvenir. Et pour quelle raison? L'écrivaine mènera alors 2 ans de recherche sur place, dans les archives et la presse de l'époque, avant de comprendre pourquoi. Et elle livre un ouvrage à lire comme un véritable thriller, raconté avec justesse, sans tomber dans la facilité ou le voyeurisme. Sa plume, tout en délicatesse et poésie, est du côté du littéraire. On suit son enquête pas à pas, fait de piétinements, de soudaines ouvertures, d'interrogations et d'un rebondissement final. Et grâce à sa ténacité et à son sens de l'observation, de la rencontre et de l'écoute, elle va éclaircir cette affaire, nous permettant d'en comprendre les rouages, de comprendre et de rendre hommage aux enfants ainsi qu'à leur famille, qui a été l'objet de nombreuses rumeurs après leur mort. Parce que différente, parce que pas dans les normes du village. Et au-delà de cette histoire, Manon Gauthier-Fort interroge le souvenir, la mémoire et les lieux où la mémoire peut se nicher. Car au final, l'EHPAD du village aura été le seul endroit où de très vieilles dames, même si elles ne se souviennent plus du présent, sont les dépositaires de cette ancienne mémoire. Et peu importe finalement que les jeunes filles soient des fantômes, chez ces vieilles dames, le souvenir de Marielle et Nathalie est présent, vivant et loin de l'oubli. Les fantômes du lac, mémoire d'un village meurtri de Manon Gauthier-Fort, est sorti aux éditions Marchali.
Merci Céline. Maintenant, Paloma.
Oui, alors parlons un petit peu de Guido Crépax, l'Axiome d'Eros. Un sulfureux essai de la philosophe, romancière et poétesse belge Véronique Bergen. Alors, de ce maître italien de la BD, Guido Crépax, donc créateur ô combien novateur, né en 1933 et mort en 2003, eh bien Véronique Bergen offre une lecture subversive, libertaire, attentive aux Dionysies raffinées, aux arcanes d'une initiation sexuelle très sophistiquée. Qu'on en juge, les territoires de Guido Crépax sont ceux de la morsure, du supplice dont il tire des icônes majeures. Alors Valentina, Bianca, Justine Lassadienne, toutes campées le plus souvent en noir et blanc, au fil de récits ouverts à toutes les incursions cinéphiliques. Antonioni, Bergman, Visconti par exemple. Alors, en l'occurrence, inspiré notamment par Louise Brooks, le personnage culte de Valentina à la fin des années 60 exprime les conquêtes émancipatrices de toute la contre-culture de l'époque, hein, la libération de la femme, le refus du matérialisme, voire le primat accordé à l'onirisme. Mais, toutefois, l'inventivité hors norme des scénarios BDSM et des machines à torture, n'est-ce pas, s'illustre surtout de façon ludique et virtuose dans la figure de Bianca, plus tard dans les années 80. Alors, contrairement aux attendus moraux qui pourraient découler d'une lecture, disons, étroite, stéréotypée, eh bien, lorsque la jeune Bianca s'imagine en poupée sexuelle, et oui, toujours suppliciée et victime de sévices, elle subvertit en vérité la loi du père dont elle tire par sa parodie des parfums de jouissance. Et la soyeuse Bianca, proie capturée, devenant boniche sur un vaisseau pirate, est catapultée comme ça dans des versions totalement hétérodoxes et vénéneuses de 20 000 lieues sous les mers, ou de Moby Dick, hein, entre autres. Et puis de case en case, bientôt, Bianca honore une partie d'échec, elle est comme ça, écarie dans les airs, le corps transpercé d'aiguilles, contrainte, la pauvre enfant, de déplacer les pions avec ses lèvres. Et puis, génie théâtral de Crépax, chez lui, les dominateurs sont des îles, certes, mais aussi des elles, des yelles, des amazones gloutonnes, des vampes florales, ivres de beauté, des ghouls, des ogres, des hétéro-straight, des bi, des lesbiennes, des entités animales, que sais-je, des concrétions psychiques, des corsaires dandies, des violeuses, pyromanes, bref, tout ce qu'on aime. En somme, nous dit Véronique Bergen, on ne peut comprendre l'œuvre de Crépax que si on saisit le plan de pensée sur lequel reposent ses créations. Un plan vitaliste, anarchiste qui récuse et s'affranchit du creuset capitaliste sous-tendu par une certaine vision occidentale du corps ou de la propriété morale, je la cite. Et plus encore, et pour faire court, Crépax invente un autre art de vivre, de créer, de baiser. Un art que la pensée chorégraphie de Véronique Bergen inscrit ici avec une allégresse profane dans toute une science du rite et de la transgression. Voilà Guido Crépax, l'Axiome des Roses de Véronique Bergen, paru fin 2023 aux éditions La Lettre Volée.
Merci Paloma, donc vive Crépax d'ailleurs, on a consacré une émission à cet éminent personnage. Maintenant à vous Hubert Prolongeon.
Alors moi, je vais faire une plongée dans des eaux moins troublées et qu'on explore assez peu finalement ici à Mauvaisjean. C'est celle de la littérature dite terroir, qui dans le meilleur des cas nous donne Christian Signol ou Jean Anglade, et dans le pire des tas de gens que je ne citerai pas pour ne pas augmenter ad libitum la liste de mes ennemis. Rappelons quand même qu'un des auteurs fétiches de Mauvaisjean, Pierre Pelot, fait des incursions fréquentes dans la collection Terre de France, modèle du genre publié aux presses de la cité. Et c'est justement dans cet improbable vivier qu'est Terre de France que nous avons pêché deux excellents polars historiques signés Cécile Baudin. Ce sont ses deux premiers livres. Elle est lyonnaise, elle a travaillé dans le BTP. Elle est devenue DRH il y a deux ans avec Marque de Fabrique qui ressort ces jours-ci en 10-18. Elle s'est penchée sur la révolution industrielle en s'intéressant aux petites mains, en mettant en scène en 1893 une déjà inspectrice du travail et une bonne sœur au grand cœur, mais à la fonction un peu plus repoussante. On était dans l'Ain et le milieu de la couture et des soieries. La Constance de la Louve, grand format qui sort aujourd'hui, nous fait un peu plus remonter le temps puisqu'il démarre en 1835 et en Lozère, où la découverte du corps d'un étudiant en psychiatrie préoccupe un juge de paix et lui ouvre le chemin de divers secrets. Comme le précédent, c'est mené à un rythme assez haletant, les personnages sont subtils, il y a un regard original sur une époque, ici la France de Louis-Philippe, les héroïnes en particulier sont très réussies et féminisent un genre qui était parfois un peu trop viril. Donc pour une fois, faisons tomber nos préjugés et précipitons-nous sur Terre de France.
Une mention
également. Une mention, voilà, d'une revue très différente de ce dont je viens de parler, qui s'appelle Flash, Flash avec deux A. C'est le deuxième numéro, c'est un trimestriel et c'est une revue qui se penche à travers divers matières et supports, SF, BD, chroniques, entretiens, sur ce que pourra donner notre futur. La maquette est très travaillée, parfois jusqu'à la confusion, avais-je trouvé. Le premier numéro était intéressant, mais un peu handicapé par un entretien avec Michael Rock, auteur de livres souvent intéressants, mais à la pensée que je trouve un peu courte. Dans ce numéro 2, c'est Hervé Le Tellier qui a pris le relais. Il est tourné vers les villes du futur. Il y a un papier très intéressant sur les différentes visions du transhumanisme. C'est donc une revue à suivre. Elle en est à son deuxième numéro, Flash avec deux A.
Et vous rappelez l'éditeur de Cécile Baudin,
Les Presses de la Cité.
Merci Hubert, merci François Rivière d'avoir été ce dimanche l'invité de Mauvais Genre à l'occasion de la ressortie aux éditions L'Olivier d'au moins deux titres de Eric Ambler, on en attend d'autres, donc là Le Masque de Dimitrios et Je ne suis pas un héros, puis votre livre aux éditions Calman Lévy de l'assassinat considéré comme une affaire de femme à signaler également, donc chroniqué dans cette émission. Manon Gauthier-Fort, Les Fantômes du Lac aux éditions Marchiali, Guido Crépax, L'Axiome des Roses de Véronique Bergen, c'est aux éditions La Lettre Volée, et Cécile Baudin aux Presses de la Cité, La Constance de la Louve. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Marie-Claire Oumabadi, Claire Poissignon, Céline Duchesnay, Claire Matin-Dugard, Paloma Hidalgo, Hubert Prolongeau et François Angelier vous remercient d'avoir écouté Mauvais Genre. La semaine prochaine, nous serons à Reims dans le cadre du festival Reims Polar et nous recevrons Pierre Jolivet.